ménagère veut le progrès, mais elle ne veut pas la pagaille.
Je peux expliquer le logiciel libre en trois mots. Liberté, égalité, fraternité.
Apophem, an old aphorism that I want everybody to remember. If you're not paying for the product, you are the product.
Premier objectif, c'est de développer l'intelligence artificielle et de faire du moteur de recherche Google une authentique intelligence artificielle. Et son deuxième objectif, c'est d'euthanasier la mort. Les dirigeants de Google sont obsédés par l'idée de faire reculer la mort.
Je me définis un petit peu comme un des architectes d'origine de l'Internet et je suis le progrès ou directement le statu quo de l'Internet depuis pas mal d'années. Je fais partie des gens qui souhaitent qui considèrent qu'il est indispensable de revoir l'architecture de l'Internet.
Bienvenue sur 50 à Galaxy, le podcast. Votre rendez-vous mensuel pour échanger sur les bonnes pratiques, les innovations et les ruptures liées à la transformation numérique.
Bonjour et bienvenue dans 50 à Galaxy, le podcast de la transformation numérique. Fabrice Darmon au micro. Pour ce cinquième épisode, nous parlons tourisme et hôtellerie avec Reda Berelli. En deuxième partie, nous retrouvons nos chroniqueurs pour diverger et converger sur le sujet. Mais pour l'instant, je suis avec un autre Fabrice, Fabrice Épelleboin. Bonjour.
Bonjour Fabrice.
Professeur à Sciences Po, et pour ce podcast du mois de juillet, période estivale oblige, nous essayons de comprendre comment le numérique change notre façon de partir en vacances.
Alors les vacances, c'est l'un des premiers secteurs à avoir été affecté par le numérique dès les années 90. On se souvient tous de Priceline qui a complètement changé la façon dont on achète des billets d'avion et puis rapidement derrière Booking.com et tout un tas de services similaires qui ont introduit un concept central de la transformation numérique, la désintermédiation. Mais ça ne s'est pas arrêté là, loin de là. Aujourd'hui, on en est à des propositions comme Airbnb qui changent radicalement la notion de propriété et permettent à un propriétaire d'un appartement dans lequel il loge de monétiser cette immobilisation financière à travers Airbnb en louant de façon très ponctuelle son bien immobilier. Et ce n'est pas fini. La transformation numérique promet à ce secteur encore beaucoup de mutations. On pense notamment à la blockchain. Mais dès à présent, on peut tous constater que les vacances ont radicalement changé avec le numérique avant, dans la préparation, après et pendant. On pense notamment aux réseaux sociaux dans lesquels il devient aujourd'hui totalement indispensable de s'afficher durant ses vacances pour en faire profiter ses amis et pourquoi pas les cambrioleurs qui sont de facto avertis de votre absence de votre domicile. À moins évidemment que vous ne l'ayez loué sur Airbnb, ce qui dans ce cas, et ou pour peu que vous ayez une alarme connectée, transforme complètement une fois de plus l'expérience de votre absence de domicile pendant les vacances. Bref, la transformation digitale a totalement affecté nos vacances. Et ce n'est pas fini, on va le voir durant ce podcast.
Fabrice, merci. Reda Berelli, bonjour. Vous êtes diplômé de l'INSA Lyon. Vous avez créé votre première entreprise à 19 ans. Vous êtes un serial entrepreneur. Aujourd'hui, vous êtes CTO de One Fine Stay et fondateur et CEO de Jenki. Reda Berelli, racontez-nous la première fois que vous vous êtes connecté à Internet.
Alors si je me souviens bien, la première fois que je me suis connecté à Internet, c'était à l'âge de 10 ans. Et c'était dans le local informatique de la Marine Royale du Maroc. Parce qu'en fait, le père de mes meilleurs amis était commandant dans la Marine Royale. Et il nous laissait accéder à cette magnifique salle qui nous permettait de nous connecter à Internet. Et j'allais sur un site à l'époque qui s'appelait Etagiv. Dans le nom de domaine, c'était etagiv.fr. Pour chatter, tout simplement.
Reda Berelli, quel est l'Internet de vos rêves ?
Ben, je pense que l'Internet de mes rêves, c'est l'Internet tel qu'il a été pensé philosophiquement. C'est un Internet qui permet aux pairs de se connecter les uns aux autres de la façon la plus efficace possible, avec le moins de friction, et aussi quel que soit le moyen. L'internet de mes rêves, c'est un internet qui permet aussi à la valeur de se distribuer correctement, aux informations de circuler librement, et c'est donc fortement lié à la façon dont il a été conçu.
Et quel est l'internet de vos cauchemars?
Malheureusement, l'internet de mes cauchemars, c'est l'internet vers lequel on tend de plus en plus, en fait. Et je parle pas d'un aspect politique ou autre. C'est en fait la philosophie de la décentralisation que guide cette vision initiale de l'Internet, ben on est en train de le perdre. Je me souviens, il y a quelques mois, j'en discutais avec un de mes amis et je lui disais, mais aujourd'hui, je ne me vois pas créer une nouvelle entreprise dans l'Internet. Il me demandait pourquoi. Je lui disais tout simplement, aujourd'hui, les Facebook, les Google, les Amazon centralisent tellement d'informations, ont une telle connaissance de tout ce que l'on fait au quotidien et tout ce que l'on dit au quotidien, qu'ils auront toujours cette avance vis-à-vis des entrepreneurs, vis-à-vis des créateurs de valeur. Aujourd'hui, quand on discute sur Messenger, qui est en fait mon moyen de communication privilégié, bah je sais qu'il y a des algorithmes d'analyse sémantique qui vont essayer de comprendre de quoi je parle, quels sont mes intérêts. Donc si on met une super intelligence derrière qui permet à l'entreprise Facebook de comprendre l'intérêt de certaines personnes clés, eh bien, il y a tout simplement la capacité à disjoncter et tout de suite s'accaparer une valeur particulière. Je vais prendre un exemple tout simple, qui est l'exemple de Snapchat. Moi, je doute pas que l'intérêt initial de Facebook pour Snapchat a été guidé par les discussions des gens sur Messenger qui devaient dire à leurs amis, viens, on se retrouve sur Snapchat. Et donc Facebook a essayé d'acquérir Snapchat, ce qui n'a pas été concluant. Et bah, leur next step, c'était de se dire, on va copier Snapchat et mettre ses fonctionnalités sur Instagram. Et ça a très bien marché parce que ça a détruit la moitié de la valeur de l'entreprise Snapchat. Donc aujourd'hui, l'Internet tel qu'il est, je pense qu'il est de moins en moins l'Internet de la liberté d'entreprendre et de disrupter.
Reda Berelli, quelle est votre définition de la transformation numérique ?
Moi, je pense qu'on peut aborder la transformation numérique selon plusieurs angles. Et je pense qu'il y a deux angles principaux. L'angle qui est à l'échelle personnelle et l'angle plutôt à l'échelle d'une entreprise. Je vais commencer par l'échelle personnelle. En fait, en tant que personne physique, j'ai envie d'exploiter la valeur, les différentes technologies qui existent pour améliorer mon quotidien. Donc je vais utiliser Uber pour me déplacer. Je vais donner un exemple tout simple qui est l'exemple de Paris. Je me souviens que se déplacer en transport en commun était devenu pour moi une nécessité, tellement le monopole des taxis parisiens m'empêchait de me déplacer correctement avec des taxis. Quand Uber est arrivé, il y a eu une telle remise à niveau de ce marché qu'on a la possibilité d'avoir une voiture pour nous déplacer d'un point A à un point B en moins de 5 minutes. À l'époque, avant Uber, c'était juste inconcevable. Et donc, en fait, des entreprises comme Uber, comme Deliveroo, comme n'importe quelle entreprise aujourd'hui qui participe à cette transformation numérique, est en train de nous simplifier la vie et de transformer en commodité des services qui sont essentiels de notre quotidien. Maintenant, en fait, si on l'aborde à l'échelle d'une entreprise, un grand groupe, par exemple, la transformation numérique, en fait, c'est ces entreprises-là qui ont imposé ce terme dans notre inconscient et dans notre conscient. La transformation numérique est une nécessité. C'est une prise de conscience que ces grands groupes, ces gros paquebots qui prennent une direction qui est quasi immuable, ben, c'est qu'ils ont loupé un coche. Et donc, ils parlent de transformation parce qu'ils considèrent qu'ils ne se sont pas assez adaptés. Et donc, cette transformation numérique, malheureusement, en fait, elle est en train de pervertir cette transformation numérique à l'échelle de la personne parce qu'ils se disent comment je vais exploiter ce besoin de ces personnes-là de se déplacer, de voyager, pour essayer de tirer un peu plus de valeur, parce qu'ils se sont rendus compte qu'au final, il y a une hémorragie de valeur qui se fait dans leur business respectif. Et donc, ils essayent de se transformer numériquement pour rester dans la partie économique.
Et comment la transformation numérique impacte l'hôtellerie et le tourisme ?
Le voyage, dans sa globalité, en fait, est un marché qui, quand je l'ai découvert il y a 2-3 ans avec l'entreprise que j'ai cofondée avec mes associés, qui s'appelle Squarebreak, je me suis rendu compte que c'était un secteur quasi archaïque en termes de technologie. Quand on regarde en fait, le premier acteur qui a participé à la transformation numérique dans le voyage et dans l'hôtellerie, c'est un acteur qui s'appelle Priceline, qui est en fait la société éditrice de Booking.com, qui a mis et qui a investi énormément d'argent pour arriver à deviner quel est le prochain hôtel que vous allez réserver et donc capter cette valeur d'intermédiation entre l'hôtelier et le voyageur de la façon la plus efficace possible en prenant des commissions juste monstrueuses. Et donc en fait, Booking, à travers sa technologie, a réussi à rendre dépendant des pans entiers d'un business. Ça a été le début de la transformation, mais le réel coup de massue de cette transformation, ça a été une entreprise qui s'appelle Airbnb. Parce que Airbnb a participé à ce que j'ai appelé initialement la philosophie de l'Internet, c'est de fluidifier les communications et les transferts de valeur pair à pair. Airbnb a transformé des assets qui sont des biens immobiliers en potentiel logement pour des voyageurs. Et donc en fait, l'argent qui initialement allait chez des hôteliers, allait chez Booking.com aussi au niveau de la commission, et ben maintenant vont directement chez des propriétaires d'appartements qui laissent et mettent à disposition leur appartement. Et donc en fait, cette philosophie qui a été de désintermédier et de proposer un nouveau mode de voyage a disrupté le monde de l'hôtellerie à travers ces nouveaux moyens de logement. Et donc en fait, aujourd'hui, comment le secteur hôtelier, le secteur du voyage réagit à ce genre de choses ? Ils se disent, bon, moi en tant qu'hôtelier, je ne vais pas forcément proposer des appartements et des maisons. Bon, c'est pas le cas du groupe Accor qui a été l'acquéreur de mon entreprise Squarebreak et qui est aujourd'hui propriétaire de One Fine Stay. Parce que en fait, Accor donc, propose des maisons de vacances à la location. Mais en fait, la vraie démarche, c'est de se dire, ça a été un vrai wake-up call pour les groupes hôteliers. C'est comment je peux leverager la relation, donc faire levier sur la relation que j'ai avec mes voyageurs pour les capter un maximum et pour leur apporter un maximum de valeur. Donc il y a la partie, le moment où la personne veut réserver. Donc c'est la relation avec les voyageurs avant la réservation. Ils ont déjà voyagé chez moi, ils n'ont pas encore voyagé chez moi, mais je vais essayer de leur proposer la meilleure destination au meilleur prix. Et donc en fait, c'est ce qu'on appelle le CRM, c'est le Customer Relationship Management, et comment je vais donc pouvoir communiquer au mieux avec mes voyageurs pour pouvoir leur proposer la meilleure destination. Je vais parler directement de la troisième partie, et ensuite, je vais m'attarder sur la deuxième. La troisième, c'est, une fois qu'il est parti de chez nous, garder cette relation de confiance qu'on a, parce qu'il a passé un excellent voyage dans nos murs, dans nos hôtels, dans nos resorts, dans nos maisons, et donc essayer de garder cette relation pour le faire revenir. En fait, ce qui manquait dans l'hospitalité et dans le travel, c'était au moment où il était chez nous. Comment on fait pour rendre son voyage encore meilleur, augmenter cette hospitalité grâce à la technologie? Et c'est l'un des aspects auxquels je m'intéresse énormément aujourd'hui, c'est la domotique telle qu'elle a été présentée dans le monde de la maison connectée au service de l'hospitalité. Parce qu'un voyageur, qu'est-ce qu'il cherche quand il voyage? C'est quelque chose de différent de ce qu'il a chez lui. C'est plus de confort, plus de services, un appartement ou une maison plus luxueuse. Et aujourd'hui, ce qu'ils recherchent, c'est plus connecté. Moins de friction pour l'accès aux services. Et donc aujourd'hui, en fait, les différents objets connectés que certains puristes et geeks installent dans leur maison sont en train de s'imposer dans les chambres d'hôtel et dans les maisons hôtelières. La question qui se pose, est-ce qu'on a envie de livrer nos maisons et les chambres d'hôtel à des monstres, des GAFA tels que Google, Amazon et compagnie. Aujourd'hui, on est en train de réfléchir à mettre des assistants vocaux dans des chambres d'hôtel, mais est-ce que ce n'est pas de plus en plus livrer nos clients et nos voyageurs et livrer leurs données personnelles à ces monstres qui font levier de ces informations-là pour faire encore plus de business et augmenter encore plus leur emprise dans le monde économique et technologique. Donc c'est le sujet sur lequel je me penche parce que je pense que la domotique doit être plus au service de l'être humain qu'au service de l'économie. Après, c'est toujours important, je suis aussi un businessman, c'est toujours important de faire des revenus à travers n'importe quelle initiative économique, mais tout en respectant le client. Et je pense que sur la partie in-stay, donc pendant le stay, pendant le voyage, il y a une vraie réflexion à aborder sur comment ces objets connectés peuvent améliorer l'expérience de notre voyageur sans corrompre cette relation de confiance qu'on a avec lui. Et c'est tout le sujet de cette dernière part de la transformation numérique dans le monde du voyage, c'est comment apporter encore plus de services sans être intrusif.
À votre avis, Reda Berili, combien de temps l'économie va-t-elle pouvoir tenir le modèle de l'ancien monde ?
Je pense que c'est un long process et que on ne verra pas l'ancien monde disparaître de sitôt. C'est là où ce qui est très intéressant, c'est de voir les premiers marchés qui sont touchés par la disruption technologique. Quel est l'un des premiers marchés qui a bénéficié de la technologie, de la connexion, du transfert d'informations à l'espace d'une milliseconde? C'est les marchés financiers. Et aujourd'hui, on est en train de le voir. Toutes les grandes banques d'affaires et d'investissement sur les marchés financiers se séparent de leurs analystes et de leurs traders parce qu'ils les remplacent par des intelligences artificielles. Dernièrement, Citibank a dit qu'ils allaient se séparer de 10 000 de leurs traders front office parce que l'intelligence artificielle allait les remplacer. De grandes banques américaines ont maintenant plus d'ingénieurs que de traders, plus de chercheurs en IA que de traders. Et donc en fait, c'est un process qui a pris très peu de temps dans le monde de la finance parce qu'on est passé des années 70-80 à aujourd'hui en 2018 où ces banques ont fini leur transformation numérique. Pour le reste, je pense que ça prendra un peu plus de temps, mais je pense qu'on en a pour une bonne trentaine ou quarantaine d'années avant que qu'on voit tous nos modèles économiques historiques se faire disrupter.
Et à votre avis, Reda Berili, quels sont les secteurs qui vont se faire ubériser dans les deux ans à venir ?
Alors déjà, le terme ubériser, j'y crois pas particulièrement. Parlons de disrupter. Personnellement, je pense qu'il y a plein de marchés et plein de business qui se font disrupter en ce moment, mais celui qui va se faire le plus violemment disrupter, c'est le monde de la finance. Les employés des grosses entreprises financières ont été ubérisés par la technologie, mais la vraie disruption viendra par la création et la naissance de ce nouveau concept qu'on appelle la blockchain, enfin qui n'est pas si nouveau que ça, mais qui finalement entre en application que depuis très récemment, qui part du principe qu'on est dans un univers trustless, où on ne peut faire confiance à personne, et donc au final, un concept de protocole de consensus va nous permettre de travailler ensemble, même si on ne se fait pas confiance. Et donc aujourd'hui, quel autre marché que la finance est si dénué de confiance ? Donc je pense que la finance et la monnaie risquent de se faire disrupter assez vite. Et il suffira d'une grosse crise financière dans les 12 à 18 prochains mois pour potentiellement voir une grosse disruption à venir.
Reda Berili, merci. Bonjour et bienvenue dans la troisième partie de 50 à Galaxy, le podcast de la transformation numérique. Nous parlons tourisme et hôtellerie. Je suis sur la terrasse du 31 rue Blanche en compagnie de Paul Richardet, ambianceur de communauté, de Pierre Noraud, petit explorateur énervé, de Robert Vinet, spécialiste de registres distribués, de Hayat Outar, chef de projet numérique, de Fabrice Epelboin, enseignant à Sciences Po, et d'Isabelle Fayol, journaliste et animatrice. Et je passe tout de suite la parole à Paul Richardet.
Donc Reda Berili nous explique en fait, il a une particularité, c'est qu'il vient de vendre son entreprise, donc il est dans une posture qui est vraiment originale. Il fait partie de ces euros gagnants. Et donc, on ne peut que le souligner. Il y a tellement de startups qui n'arrivent pas à ce niveau-là. Et en fait, la difficulté, c'est qu'il nous positionne. D'un côté, on voit qu'il y a l'utilisateur, et de l'autre côté, il y a l'argent. Et on a un petit peu du mal à comprendre comment ça passe de l'un à l'autre. On a compris que beaucoup d'entreprises allaient être disruptées ou ubérisées. Et il y a une phrase qu'il a dit, une expression qu'il a utilisée que j'ai trouvée assez intéressante, c'est exploiter le besoin. Donc dans un premier temps, vis-à-vis de l'utilisateur, du consommateur, on exploite ses besoins pour mieux le servir. Mais dans un deuxième temps, on voit qu'il y a des marchés financiers, il y a de la et on rentre dans une rentabilité forte. Et j'ai trouvé que le passage de l'un à l'autre méritait une réflexion, une analyse, et que c'était pas forcément très clair.
Bonsoir Reda, c'est Pierre, le petit explorateur énervé du digital. Reda, j'ai compris. Pas les plateformes hein, qui mangent toutes nos données personnelles. Reda, j'ai compris, t'aimes pas les IA hein, qui sont en train de remplacer tout le monde dans la finance. Et ton rêve de vacances, c'est une plateforme, une belle IA, un bel algorithme, qui vient expliquer aux utilisateurs qu'elle les connaît mieux qu'ils ne se connaissent, et donc qui va leur proposer la vacance de leur rêve. Mais enfin, Reda, à l'origine de l'Internet, c'est bien connecter les gens, non? C'est la sérendipité. C'est pas se faire chier à voir sa petite villa bien pépère, qui se ressemble toutes, que tu partes à Shanghai ou à Los Angeles. C'est bien d'aller chez les gens et de les laisser t'apprendre, te faire découvrir la ville. Une expérience, enfin. Bref, moi, tes vacances, elles m'emmerdent. Je vous le dis en toute amitié, hein, parce que moi, franchement, j'aime bien prendre une carte et me dire « Bon, je sais pas trop où je serai demain, mais on va partir dans cette direction. » Airbnb, au départ, c'était ça. Ça connectait les gens. Maintenant, Airbnb, c'est vous les désintermédiez, et c'est un gros intermédiaire. Quand vous arrivez chez votre Airbnb, vous lui adressez pas la parole. Vous lui laisserez juste une review à la fin en disant qu'il était très sympa parce que vous l'avez pas vu. Et je trouve ça triste, en fait. Je trouve ça triste, cette vision des vacances, et je pense qu'on peut être en attente d'un peu plus de nos services digitaux, en particulier de l'innovation, de la disruption, comme tu aimes dire, et la transformation digitale dans l'hôtellerie et dans les vacances. Quelque chose qui nous connecte et qui nous fasse découvrir, pour de vrai, des nouveaux horizons.
Bon, c'est à mon tour, c'est Robert qui te parle, Reda, parce que ce soir, c'est vraiment à toi qu'on veut parler. Tu nous as exprimé ton point de vue sur les différentes phases, intermédiation, désintermédiation. C'est un truc très complexe. Et puis, tu nous as apporté cette notion qui est la notion de l'insté. Comme si on voulait être nurturé jusqu'à l'insté, à toutes les étapes de notre séjour. En réalité, je crois qu'on est dans un monde qui nous a apporté beaucoup de services digitaux qui, d'abord, unanimement ont rendu ce tourisme ou ces périodes à l'extérieur de notre chez-soi beaucoup plus aisées. Je vais en citer un exemple que tu ne nous as pas cité. Comment faisait-on il y a 30 ans quand on était au bout du monde et qu'on n'avait pas accès au monde, alors qu'aujourd'hui, on a accès en permanence au monde.fr. Donc, notre monde numérique nous a apporté beaucoup de choses pour nous mettre ailleurs comme chez nous. Je n'ai pas la vision pessimiste que tu as sur l'ensemble de ces choses-là. Mais bon, ça prend des pessimistes et des, comme disait un de mes anciens patrons, pour vivre heureux dans ce bas monde, vivons paranoïaques, c'est sûr. Mais peut-être qu'il faut voir ça de manière un tout petit peu plus large et trouver ce qui sera vraiment utile. Et il n'est pas question que de GAFA, que de désintermédiation et autre chose de ce type-là. Mais on réfléchit bien ensemble vers où tout ça va.
Hayat Outar, chef de projet numérique. Alors, moi, ce que j'en pense, c'est qu'on peut polémiquer sur le pouvoir des GAFA et la centralisation de nos données. Mais c'est aussi grâce à ça et à la performance des algorithmes développés qu'on est en capacité aujourd'hui de s'organiser des séjours moins chers et personnalisés. Alors aujourd'hui, les usages ont changé et les consommateurs ont des besoins spécifiques. Avant, on optait pour des séjours tout compris pour gagner en temps et en organisation. Et aujourd'hui, notre smartphone est un assistant personnel et on n'a plus peur de s'improviser des séjours. Nous sommes devenus en quelque sorte des aventuriers. On est capable de pouvoir s'adapter au fur et à mesure. Alors, la transformation numérique à l'échelle de l'entreprise, elle est surtout due à un manque d'observation des principaux acteurs et dirigeants sur les usages permis par la technologie d'aujourd'hui. Alors, les pionniers, tous, hein, on a beaucoup parlé de Airbnb, de Uber, etc. Ils ont d'abord été des initiatives personnelles sans business model. Si on pense à covoiturage, à Airbnb, etc., qui sont des plateformes qui existent depuis longtemps et qui ne généraient pas de revenus au tout début. Et c'est l'absence de business model immédiat qui a créé l'évolution, car il y a eu une phase d'observation sur la durée qui a permis de développer un capital confiance avant la popularisation des nouveaux usages. Alors, aujourd'hui, avec l'arrivée de la domotique, avec les assistants vocaux, etc., etc. Effectivement, le but, c'est de gagner en service, en confort et pour pouvoir justement fidéliser les clients au risque de livrer forcément des data aux GAFA et de participer à leur monopole. Mais en même temps, c'est toutes ces données qui permettent au fur et à mesure du temps d'inventer de nouveaux business models et de permettre aux consommateurs d'avoir des services et un confort qui est personnalisé. Et on va de plus en plus vers la personnalisation. Et au final, il faut choisir entre garder sa donnée pour soi ou en donner un petit peu et puis pouvoir avoir des choses qui sont beaucoup plus adaptées.
Alors moi, je vais revenir sur cette grande lutte entre concentration, décentralisation, qui est merveilleusement illustrée par nos amis les GAFA, qui aujourd'hui, il faut bien le reconnaître, sont à leur apogée, mais qui dit apogée dit forcément déclin. Et il y a beaucoup d'indices quand même qui montrent qu'ils sont certainement pas sur le point de disparaître, mais ils commencent à arriver aux limites de leur modèle. D'abord, la presse s'est réveillée. Après 10-15 ans employés sous les lanceurs d'alerte, on n'a plus une seule journée aujourd'hui sans avoir un article dénonçant les abus de tel ou tel GAFA, ce qui est plutôt bon signe. Les gens commencent à se méfier. Ils commencent à réaliser le problème et l'impact que ça va avoir sur la société, sur leur système de gouvernance, sur l'avenir de la démocratie, tout ça. C'est probablement un peu trop tard. Mais il y a pas mal de choses qui laissent penser que, d'une part, les GAFA vont commencer à s'attaquer au monde réel. Récemment, on avait un gros GAFA qui se nomme Google, qui faisait le baiser de la mort à l'un de nos têtes de série du CAC 40, Carrefour. Et ce genre de partenariat maléfique se multiplie à vitesse accélérée. On peut probablement en déduire que le vieux monde va se faire bouffer et après ça, il restera plus grand-chose à manger. Et là, normalement, sans carburant, les GAFA vont commencer à décliner. C'est un grand espoir que je vois beaucoup plus rapidement que ce que dresse Reda dans son analyse. À mon avis, ça va aller beaucoup plus vite qu'on imagine. Et on devrait, d'ici moins d'une génération, voir la fin de cette ère de la concentration et des plateformes.
Isabelle Fayol. Bonjour à tous. Moi, je suis un petit peu sur ma faim sur la partie tourisme, hôtellerie, parce que j'attendais des choses un peu plus spécifiques. Et par ailleurs, je partage pas forcément l'analyse sur les attentes du voyageur qui voudrait, quoi qu'il arrive, une maison ou un appart plus connecté avec plus de confort, étant donné que pour quand même pas mal de gens, ils cherchent aussi à se déconnecter justement de leur vie quotidienne. Cette déconnexion, elle peut être numérique, mais cette déconnexion, elle peut être aussi de dormir dans des lieux un peu atypiques ou d'aller expérimenter des choses qui ressemblent pas à chez moi en mieux. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est sur un peu l'analyse des modèles disruptifs qui nous sont présentés. Personnellement, je les trouve un peu vieillots, un peu caduques, parce que je trouve que depuis les 10 dernières années, il s'est passé quand même beaucoup de choses. Et j'aurais bien aimé que Reda nous parle un peu plus d'économie circulaire. Quand on parle des pistes possibles sur le tourisme de demain, on peut imaginer que le digital puisse aussi faire partager aux gens davantage que leur maison, que leur appartement, un style de vie, des sorties, partager des vélos, partager des brouettes, partager des modes de locomotion. Et j'attendais peut-être un peu plus d'imagination sur tout ce qui serait possible d'échanger comme expérience utilisateur ou expérience voyageur. Et sur cette partie-là, j'étais un petit peu frustrée parce que comme c'est un spécialiste du secteur, j'aurais bien aimé en savoir plus. Dernier point, moi qui aime beaucoup l'architecture et le patrimoine, il y a des choses formidables en ce moment en France et également à l'étranger sur l'exploration patrimoniale et architecturale avec de la réalité augmentée.
Merci d'avoir écouté le 5e épisode de 50 à la Galaxie, le podcast de la transformation numérique. Retrouvez-nous sur iTunes et sur SoundCloud pour vous abonner ou réécouter des épisodes précédents. Et rendez-vous à la rentrée pour le 6e épisode.